Le 23 août 1939, le monde apprend la signature du pacte germano-soviétique de non-agression. Le journal L'Humanité salue le pacte comme l'écroulement du plan des Munichois, de ceux qui avaient accepté le pacte de Munich, qui justifier l'occupation par Hitler d'une partie de la Tchécoslovaquie. Les Munichois avaient le plan que beaucoup d'entre vous connaissent. Le 23 août 1939, l'Humanité salue le pacte germano-soviétique comme un échec porté aux Munichois. Le 28 août 1939, à cause de cet appui donné au pacte germano-soviétique, le gouvernement français interdit tous les journaux communistes. C'est la déclaration de guerre de la France et de l'Angleterre à l'Allemagne. Le 26 août 1939, au groupe communiste, Thorez déclare « Nous approuverons les mesures prises par le gouvernement pour garantir nos frontières. » Donc, nous approuverons le pacte germano-soviétique, c'est l'échec des Munichois. Et en même temps, nous approuvons les mesures prises par le gouvernement pour garantir nos frontières. Tel est le langage des dirigeants communistes. On peut le situer exactement dans la logique de la ligne du congrès d'Arles de 1937. Pendant un mois, jusqu'à la fin septembre 1939, c'est cette position qui sera défendue. Aucune incompatibilité entre la défense de l'Union soviétique et la défense de la France contre l'Allemagne hitlérienne. C'est dans cette période que tous les communistes mobilisés rejoignent leur corps, rejoignent leur régiment. Mais, fin septembre 1939, Raymond Guyon revient de Moscou, où il était au comité exécutif de l'Internationale communiste. Il revient de Moscou avec des indications très précises de l'Internationale communiste, à la lutte antifasciste, il faut, plutôt la lutte à la lutte antifasciste, il faut que se substitue la lutte contre la guerre impérialiste. L'analyse de l'époque de l'Internationale communiste, c'est que la guerre qui a été déclarée est une guerre injuste, une guerre de brigands capitalistes, dans laquelle la France va devenir un dominion des banquiers londoniens. Le 26 septembre 1939, donc vous voyez toujours dans des jours qui se touchent presque, l'armée rouge entre en Pologne, le parti approuve l'entrée de l'armée rouge en Pologne. Alors Daladier prend prétexte de cette approbation pour dissoudre le parti communiste. Il semblerait d'ailleurs, d'après les observations des contemporains, que l'entrée de l'armée rouge en Pologne ait posé dans les rangs des communistes beaucoup plus de problèmes que la signature du pacte germano-soviétique. Parce que l'entrée de l'armée rouge en Pologne apparaissait comme une mesure d'agression impérialiste. Vous savez, enfin vous ne savez pas peut-être, que quelques jours avant, Aragon écrivait encore dans Ce Soir, il faudra que nous sommes prêts à mourir pour la Pologne. Et quelques jours plus tard, il approuvait l'entrée de l'armée rouge en Pologne. Alors ça a effectivement été un fait historique qui a jeté le trouble dans les rangs communistes, y compris dans les rangs ouvriers. Alors, le 4 octobre 1939, deux délégués de l'Internationale communiste, un Italien qui avait vécu longtemps en France, Cerretti, et Ramette, qui était un militant de la région du Nord, viennent de Belgique, indiquent à Maurice Thorez qu'il doit déserter. Il est à l'époque stationné avec son régiment à Chauny dans l'Aisne. Il l'emmène dans le Pas-de-Calais à Fampoux, où il le cache, et de là, il gagne la Belgique, où il les retrouve Fried, à Berg. En janvier 1940, les quatre députés soldats vont siéger à la Chambre et y attaquent l'Union sacrée. Un décret de déchéance est pris contre les députés communistes en février 1940. Ils sont jugés en mars-avril 1940. Si je vous parle assez longuement de ça, c'est pour en arriver à cette phrase citée par Étienne Fajon dans ce procès, qu'on a appelé le procès des 44. Étienne Fajon a déclaré devant ce tribunal, nous combattons la guerre actuelle, nous luttons pour y mettre fin, parce que c'est une guerre impérialiste. Donc c'est bien là la ligne de l'international communiste, la guerre des Français et des Anglais contre Hitler, c'est une guerre impérialiste, et les impérialistes étant les Anglais. Des militants sont arrêtés, 3400, 1500 sont condamnés, 500 maires et adjoints sont révoqués dans cette période-là. Pratiquement, dans cette période, le Parti communiste disparaît. Alors là ce n'est pas le lieu ici, mais il y a des recherches à faire pour essayer de comprendre pourquoi un parti aussi puissamment organisé et aussi puissant quand même à l'époque, a pu disparaître aussi brutalement. On peut y trouver des raisons. Premièrement, des raisons politiques. Il y a une incohérence entre, d'une part, l'antifascisme de 35-37 et le nationalisme de 37-39, d'une part, et d'autre part, la défense du pacte germano-soviétique. Là, on peut poser la question qu'est devenu l'antifascisme dans le pacte germano-soviétique. Et puis la propagande défaitiste à laquelle se livre le parti dès septembre 1939. Et alors là, où est le front français préconisé en 1937? Et de même qu'il y avait incohérence entre la défense acharnée de la Pologne, qui avait été la ligne du parti, et puis l'approbation du partage de la Pologne. Et à cause de ces incohérences politiques, on peut expliquer le trouble qui a gagné les militants communistes. L'application aveugle des directives de l'international communiste qui était inspirée, vous le comprenez bien, par la politique d'État de l'Union soviétique. C'était l'application stricte et très simpliste des intérêts de la politique d'État soviétique qui a amené l'international communiste à préconiser cette ligne de dénonciation de la guerre impérialiste. D'autres raisons aussi. Des raisons intérieures, sûrement d'organisation. Thorez avait choisi un dénommé Chiton comme secrétaire d'organisation chargé de préparer le passage dans la clandestinité. Et Chiton avait donné à la police des renseignements importants sur l'organisation du passage du Parti communiste dans la clandestinité. En même temps, la direction du Parti communiste croit que le passage dans la clandestinité, c'est pour une période très passagère. Pourquoi ? Pourquoi la direction communiste se fait-elle des illusions sur les possibilités légales ? Eh bien, par comparaison, en Belgique et en Angleterre, les partis communistes sont restés légaux. Fin 1939, Molotov publie un rapport, prononce plutôt un rapport, qui est publié, et le rapport de Molotov connu fin 1939 dit que l'Allemagne est pour la paix, que la France et l'Angleterre sont pour la guerre. Le rapport de Molotov dénonce les intérêts des grandes puissances coloniales, l'Angleterre et la France, qui veulent l'hégémonie mondiale, dit-il. Le motif réel de la guerre anglo-française contre l'Allemagne, ce n'est pas que l'Angleterre et la France aient juré de rétablir l'ancienne Pologne, ni bien entendu qu'elles aient résolu de lutter pour la démocratie. Ces motifs réels sont du domaine de leurs intérêts de grandes puissances coloniales. Dès lors, le caractère impérialiste de cette guerre devient évident. C'est toujours Molotov qui parle. Hein. Il conclut, une Allemagne forte est une condition nécessaire de la paix solide en Europe. Comment ? On comprend que les indications données par l'international communiste, ça n'était que l'application au mouvement ouvrier des intérêts d'État de l'État soviétique. On peut donc penser qu'au niveau de l'international communiste aussi, l'analyse était sommaire. Ou qu'on acceptait de façon assez sommaire des analyses simplistes, des analyses occasionnelles et de circonstances. C'est là, sans aucun doute, un défaut d'analyse dialectique sérieuse qui explique l'appréciation du pacte germano-soviétique porté par les différents partis communistes de l'époque. Ils pensent qu'il s'agit d'un pacte des puissances pauvres et démunies, prolétaires, même le terme est employé, un pacte des puissances prolétaires, contre les puissances riches, pauvres et impérialistes. Effectivement, ni l'Union soviétique, en principe, ni l'Allemagne hitlérienne n'ont de colonies en Afrique ou en Asie, comme en ont à l'époque la France et l'Angleterre. Au moment où les armées hitlériennes percent à Sedan et foncent vers l'ouest pour gagner la côte du Pas-de-Calais et boucler toutes les armées françaises et anglaises, la politique du parti communiste, c'est le défaitisme. Mais les événements militaires arrivent à interrompre les liaisons du parti communiste avec la délégation de l'Internationale communiste, qui restait en Belgique, qui se trouve, du fait de la percée allemande à Sedan, coupée des communistes en France. L'appareil d'organisation remis en place par deux hommes qui s'appellent Tréhant et Dalidé est à l'époque très précaire, et des délégués régionaux se trouvent isolés de la direction du Parti communiste. Ils ont maintenu quelques organisations de base dans les grands centres et quelques liaisons rurales pour des raisons élémentaires, l'approvisionnement. L'approvisionnement en nourriture et l'approvisionnement en matériel de propagande. Mais notons quand même que ce défaitisme développé par le Parti communiste dans cette période se veut révolutionnaire. Et toutes les publications communistes tendent à différencier ce défaitisme révolutionnaire du défaitisme de la cagoule. La cagoule, c'est le ramassis des anciens fascistes, et les anciens fascistes ont eu dans la même période une attitude défaitiste, mais par amitié pour l'Allemagne hitlérienne. Pour se distinguer, la direction du Parti communiste rappelle tout au moins sans cesse le caractère révolutionnaire de son défaitisme. On peut dire quand même que les directives de l'Internationale communiste ont amené la confusion. D'ailleurs, il est intéressant de voir ce qu'en disent les commentateurs officiels du Parti communiste dans la dernière publication historique, qui est la publication officielle par le Parti communiste des numéros de l'Humanité clandestine au mois d'octobre 1975. Des facsimilés. Il s'agit de deux tomes très bien présentés et qui coûtent très cher, mais dans lesquels les commentateurs, c'est-à-dire Cognot essentiellement, sous la direction de Germaine Villard et de Duclos, les commentateurs écrivent dans des commentaires que les directives de l'Internationale communiste de l'époque ont créé la confusion et ont oublié l'autre donnée de la situation, de point, le rôle du fascisme dans la guerre. Plus loin, Cognot, enfin, ce n'est pas signé, mais c'est sans doute lui, dit que l'Internationale communiste a contribué à émousser les armes du PCF. Regardons bien cela pour comprendre les événements. Et pour les comprendre à leur aune, sans trop d'enthousiasme. Si les commentateurs du Parti communiste en octobre 1975 écrivent cela, d'une part, c'est parce que ça a été historiquement démontré, qu'il vaut mieux le dire que le nier. Mais d'autre part, on peut comparer cette espèce de condamnation des directives de l'Internationale communiste en 1939, excusez-moi si je vous étonne, mais à une déclaration de Staline à Berlin en 1945. Alors que l'Internationale communiste avait dit en 1939 qu'il s'agissait d'une guerre impérialiste, de l'impérialisme anglo-saxon. En 1945 à Berlin, après tous les bouleversements que vous connaissez, la première fois qu'il met le pied à Berlin, Staline prononce un discours dans lequel il dit froidement, après avoir analysé sommairement à sa façon les événements, c'est ainsi que dès le début, la guerre, et il ne dit pas 1941 pour lui, Il dit, c'est ainsi que dès le début, la guerre 1939-1945 prit le caractère d'une guerre juste des démocraties contre l'hitlérisme et les fascismes. Staline disant ça en 1945, Cognot peut quand même se permettre de le commenter en 1975. C'est pour ramener un peu à leur juste valeur des commentaires qui peuvent nous paraître étonnants quand ils sont publiés en 1975. On peut voir aussi de la part des commentateurs officiels actuels du Parti communiste une autre idée sous-jacente. C'est la glorification de Thorez. Parce que si c'est vrai que l'international communiste s'est trompé, Thorez a eu raison de ne pas l'écouter. Et de lui tenir tête même. Pendant toute une période, pendant toute la période dans laquelle il était resté aux armées. Et dans laquelle les députés communistes avaient l'attitude dont j'ai parlé tout à l'heure. En tout cas, la direction du Parti communiste, à l'époque, regarde ce que font les fascistes en France, ce que font les cagoulards, ce que font les pro-nazis, et elle est obligée de se distinguer d'eux, de ne pas être confondue avec eux. J'espère que ces quelques données vous font bien prendre conscience de la complexité de cette situation. Il faut bien en prendre conscience si on veut essayer de comprendre les événements qui vont venir. Alors, dans le second chapitre de cet exposé, je vais vous parler de ce qu'on peut appeler des éléments faussés. Premier événement faussé, la direction du Parti communiste a toujours dit que le 6 juin 1940, donc alors que les Allemands occupaient le nord de la France et une partie de l'Est, et qu'ils descendaient petit à petit vers Paris, le gouvernement français aurait fait demander à la direction clandestine du Parti communiste quelle était sa position, parce qu'il espérait appeler à une mobilisation de masse des ouvriers, particulièrement de la région parisienne, et ne pouvait pas le faire sans l'avis du Parti communiste, et qu'un ministre du gouvernement de l'époque, qui s'appelait Anatole de Monzy, aurait touché Politzer, qui était professeur de philo à François Berthelot à sa mort, je crois, qu'il connaissait, pour essayer de savoir quelle serait la position du Parti communiste. On a dit et écrit dans les publications du Parti communiste que le 6 juin 1940, Politzer avait remis à Anatole de Monzy un document posant les conditions d'une participation des travailleurs à la défense de Paris. Vous savez, cette fameuse citation qui se termine par « et faire de Paris une citadelle imprenable ». Normalement, les travailleurs. Première remarque, puisqu'on a tant parlé de l'appel du 10 juillet 1940, signé Maurice Thorez et Jacques Duclos, il est étonnant qu'on ne parle pas d'une réponse donnée par Maurice Thorez et Jacques Duclos, parce que s'ils étaient là le 10 juillet 1940, à plus forte raison le 5 juin. Et pour une chose aussi importante, les publications du parti ont toujours parlé de proposition élaborée par Benoît Frachon. Benoît Frachon, d'ailleurs, le confirme dans un article de l'Humanité qu'il a publié le 17 août 1964 à l'occasion du 20e anniversaire de la libération de Paris. Il dit qu'effectivement, c'est lui qui a rédigé ces propositions remises à de Monzy, et il ajoute « avec quelques collaborateurs du comité central ». Les humanités clandestines du 17 mai, du 20 mai, du 17 juin et du 1er juillet 1940 réclament un gouvernement populaire pour rétablir la paix et ne disent pas un mot de ces propositions officielles remises le 6 juin 1940. En janvier 1944 à Alger, Marty affirme qu'il s'agissait d'une décision du comité central, donc en contradiction avec Frachon. Mais Marty avait à l'époque besoin, alors qu'il était à Alger, de justifier le Parti communiste auprès de De Gaulle. Et de justifier tout ce qui avait été fait comme venant d'une direction. En plus, il connaissait, alors que nous étions à l'époque en janvier 1944, Il connaissait les cahiers clandestins de janvier 1944, justement, qui parlent pour la première fois d'une proposition du parti en juin 1940. Voilà donc un événement qui a sans doute été un événement exact. C'est sans doute vrai que de Monzy a essayé de tâter des dirigeants communistes pour savoir ce qui se passerait et pour savoir si on pouvait espérer quelque chose des ouvriers. Comme il s'agissait essentiellement des ouvriers, c'est sans doute exact ce que dit Frachon, que c'est lui qui a rédigé les choses, et avec Politzer. Et c'est sans doute exact aussi que Politzer a remis ce document. Mais du 6 juin 1940 jusqu'au cahier du clandestin, au cahier du communisme de janvier 1944, on n'en parle pas. On y fait une allusion en novembre 1943, et on en parle officiellement en janvier 1944, c'est-à-dire dans une période, janvier 1944, dont nous parlerons rapidement tout à l'heure, une période pendant laquelle l'ensemble des organisations résistantes en France se trouvent sur des positions de défense nationale, sur des positions qui obligent la direction du Parti communiste à montrer qu'en 1940, également, elle avait eu des positions nationales. On a trouvé un terme depuis, hein, qui explique ça, c'est ce qu'on appelle la récupération. Hein. On laisse faire tel militant isolé, on ne parle pas qu'il a fait ça, comme si jamais c'est une erreur. On n'en parle pas. Mais si l'histoire démontre que ça n'est pas une erreur, alors on en parle. Le phénomène s'est passé. Il ne reste plus qu'à le faire passer comme un phénomène voulu par Duclos, alors que ça n'était pas du tout une initiative de la direction du Parti communiste. Il est donc certain que le document existait en juin 40. D'ailleurs, Tillon signale que les notes que Daniel Casanova lui avait remises à Bordeaux en juin 1940 et qui étaient écrites de la main de Frachon étaient exactement dans cette ligne-là. Si la bourgeoisie a besoin de nous pour se défendre, nous lui posons des conditions immédiatement. Nous ne refusons pas de défendre, mais nous posons nos conditions d'organisation ouvrière. Ce qui était, de la part de Frachon, une position qu'on peut très facilement admettre. C'était le militant syndical qui parlait. On peut penser que ces notes de Frachon ont servi de base à la rédaction de ces textes. Et puis, en même temps, il faut penser que pour les militants communistes de l'époque, les militants de la base, l'invasion hitlérienne, c'est la cagoule qui arrive. C'est ce qu'on a connu quelques années auparavant, c'est le fascisme français au pouvoir. Dans l'esprit des anciens militants de la base, hitlérisme égale cagoulard en France égale fasciste en France. Toutes les données de l'international communiste, tous les intérêts de l'État de l'URSS, tous ces problèmes-là, les militants de la base les ignorent complètement. Et pour eux, l'arrivée des troupes hitlériennes, c'est l'arrivée des fascistes. Parlons maintenant d'un second événement faussé. La manifestation du 11 novembre 1940, il y a eu une manifestation qui avait été prévue par des étudiants gaullistes ou nationalistes. Les responsables étudiants communistes, et en particulier l'ESCUR, ont donné des indications pour que les étudiants communistes, on a eu à ce propos, je me souviens le témoignage de notre camarade Jean Brasvik, qui a participé effectivement, qui a vu exactement comment ça se passait, l'ESCUR a donné des indications pour que les étudiants communistes aillent voir comment ça se passait, et les lycéens y sont allés. On ne peut pas prétendre que ce soit une indication de la direction du parti, comme le prétend Ouzoulias, comme le prétend Francis Cohen. Sans aucune liaison avec le parti, l'ESCUR a eu raison de dire aux étudiants communistes, allez donc voir ce qui se passe là, il faut quand même qu'on sache un peu ce que c'est. Il n'y a pas eu de coup de feu, il n'y a pas eu de mort. C'est après qu'il y a eu d'autres événements. L'Humanité, du 16 novembre 1940, n'en dit pas un mot. Voilà encore un exemple de récupération. Troisième événement faussé, vous l'attendez, l'appel du 10 juillet 1940. L'appel du 10 juillet 1940, qui a été effectivement un appel qu'on a publié de façon tronquée, d'abord avec des points de suspension pour montrer les passages, que des passages manqués, et puis ensuite sans points de suspension. Je crois que l'histoire a fait son sort aussi à ce faux événement, et que le sort vient d'être fait justement par la publication des humanités clandestines dont je vous parlais tout à l'heure, je vais y revenir. Mais je veux rappeler avant que la première fois qu'on entend parler d'un appel du 10 juillet 1940, c'est en avril 1943. Or, en avril 1943, quelle est la situation? En avril 1943, des rapprochements sont déjà pris entre De Gaulle et la direction clandestine du Parti communiste. De Gaulle a besoin de l'aval du Parti communiste pour montrer aux alliés qu'il représente toute l'opinion française, y compris celle des ouvriers. Le Parti communiste a besoin de l'aval de De Gaulle pour montrer qu'il est effectivement résistant. Ils ont besoin l'un de l'autre. Avril 1943, c'est exactement cette période-là. Il faut donc, en avril 1943, retrouver un texte qu'on pourra couper de place en place pour faire un assemblage cohérent et le présenter comme un appel à la résistance. Et ça devient l'appel du 10 juillet 1940. En fait, c'est en août 1940, sans aucun doute, les historiens l'ont montré, que les éléments de ce texte ont été rassemblés, puisque on trouve dans le texte des allusions à des hommes politiques qui n'apparaissent qu'en août, et qui sont inconnus en juillet. Ça ne peut donc pas être un texte du 10 juillet 1940. Mais pourquoi 10 juillet 1940? Parce que c'est à cette date-là que l'Assemblée, ça ne s'appelait pas l'Assemblée, la Chambre des députés élue par le Front populaire se réunit à Vichy et donne les pleins pouvoirs à Pétain. Et c'est à cette date-là que, je vous le dirai tout à l'heure, la très grande majorité du groupe parlementaire socialiste vote les pleins pouvoirs à Pétain. Donc il faut que le 10 juillet 1940, la direction du Parti communiste fasse quelque chose. Alors comment a procédé la direction communiste à ce propos? C'est en avril 1943, sous le titre « Réponse à quelques mensonges Bosch », que l'humanité parle d'un appel du 10 juillet 1940. Le 23 décembre 1944, donc après la libération de Paris, le texte est publié sans point de suspension. Le 17 juin et le 10 juillet 1945, il est de nouveau publié et sans point de suspension. On a supprimé les points de suspension qui pouvaient faire croire qu'à cet endroit-là, il manquait du texte. L'Humanité, du 12 décembre 1947, publie une photocopie d'un numéro clandestin de l'Humanité du 10 juillet 1940. Mais ce numéro clandestin du 10 juillet 1940 porte la mention « Directeur Marcel Cachin ». Or, tous les autres numéros de l'Humanité clandestine publiés de 1939 à 1944 ne portent aucune indication de directeur Marcel Cachin. Mais, mieux encore, il existe un numéro 60 du 7 juillet 1940, qui est réel celui-là, qui est publié. Et il existe un numéro 61 du 13 juillet 1940. Entre les deux, il y a le 10 juillet. Alors c'est sûrement le 60 bis. Et ce donc, tous les numéros de cette époque-là sont foncièrement anti-anglais, je reviendrai tout à l'heure, et ne comportent pas un mot contre les Allemands. Et donc ensuite, aucune référence jusqu'en 1943 à cet appel du secrétaire général. En réalité, en août, des éléments ont été fournis, et en septembre 1940, effectivement, un appel au peuple de France a été rédigé. D'après le témoignage de Marty, il s'agirait de notes que Marty avait prises en présence de Thorez alors qu'il se promenait sur la Volga. Il a même dit « Jeannette Vermeer chantait » sur le bateau. Ce qui donne un peu un aspect valable, je crois, au témoignage. Et lui aurait pris des notes qu'il a transmises, à l'époque, par Bogomolov, qui était ambassadeur à Vichy. Et ce seraient ces notes qui auraient servi effectivement à cette déclaration de septembre 1940, dans laquelle on a cisaillé après des passages pour que ça fasse le texte de l'appel du 10 juillet. Alors la dernière nouvelle, elle est sommaire. En octobre 1975, la publication officielle de tous les numéros de l'Humanité clandestine escamote ce numéro. Directeur Marcel Cachat n'existe plus. Et on ne parle d'un soi-disant appel du 10 juillet 1940 que dans un tract rejeté en documentation en fin du second tome. Vous voyez, c'est donc la reconnaissance par la direction du PC que jusque-là des faux ont été commis pour faire croire qu'un appel du 10 juillet 1940 avait été lancé par Thorez et Jacques Duclos. D'ailleurs, toutes les humanités de cette période prônent quoi? Elles réclament toutes un gouvernement populaire, un gouvernement qui ne soit pas celui de Vichy. Toute l'orientation de la direction du Parti communiste n'est pas une orientation anti-allemande, c'est une orientation anti-Vichy. Alors ça m'amène au troisième chapitre, l'hostilité aux impérialistes anglo-saxons. Toute la direction du Parti communiste de l'époque donne à son action un caractère anti-anglais. Anti-anglais présenté comme un caractère anti-impérialiste. Ce n'est pas les Anglais en tant que tels que la direction communiste attaque, c'est les Anglais en tant qu'impérialistes. L'invasion, l'occupation du pays par les alliés de Moscou, c'est-à-dire les Hitlériens, fait croire à la direction du Parti communiste que d'autres possibilités sont données. Et le 19 juin 1940, une délégation se présente au service allemand de la Propagandastaffel à Paris. C'était le service nazi de Goebbels qui contrôlait tout ce qui était publié pour obtenir la reparution de l'Humanité. Cette première délégation était composée de Tréhant, de Denis Ginolin et d'une camarade d'origine alsacienne qui parlait couramment l'allemand qui s'appelait Schrott. Un accord de principe leur a été donné le 20 juin. Mais le 21 juin, Vichy fait arrêter Denis Ginolin et Tréhant, en application du décret du 26 septembre 1939. Vichy applique les décrets du gouvernement de 1939 et fait arrêter Denis Ginolin et Tréhant, qui sont porteurs d'articles destinés à être visés par la Propagandastaffel. L'avocat Froissin et Catlas interviennent. Ils interviennent comment? Ils se présentent à la commandanture. Et de là, ils vont à la Propagandastaffel. Ils les font libérer. On est le 25 juin. Et le même jour, accompagnés de Catlas, Froissin et Tréhant présentent à la Propagandastaffel un projet de publication de l'Humanité, définissant ce que serait l'Humanité si elle pouvait reparaître légalement. Ces événements, qui peuvent paraître assez étonnants, ont pourtant été officialisés par Daladier lui-même. Après la guerre, alors que les parlementaires communistes réclamaient l'invalidation de Daladier, qui avait été réélu député, Daladier, de la tribune de la Chambre des députés, les 18 et 19 juillet 1946, a donné connaissance des documents qu'il avait, des démarches et des noms de ceux qui avaient fait les démarches. En tout cas, les documents qu'il donnait quant au programme proposé pour une humanité légale correspondaient exactement à ce qu'était l'UMA de juin 1940 à octobre 1940. C'est-à-dire que c'était la continuation de la lutte contre l'impérialisme anglais. Le numéro 4 de juillet 1940 de l'Humanité clandestine écrivait « Le peuple de France veut la paix, il demande d'énergiques mesures contre ceux qui, par ordre de l'Angleterre impérialiste, voudraient entraîner à nouveau les Français dans la guerre. » Et cette ligne-là, qui était la ligne de la direction du PC, pouvait justifier aux yeux de cette direction une demande de reparution légale de la part des Allemands. Un petit fait à signaler là. En 1967, la publication du Parti communiste, l'ouvrage Le Parti communiste dans la résistance, page 73, parle de cette démarche et dit la gravité de cette erreur, donc reconnaît la démarche, la gravité de cette erreur qui fut blâmée et sanctionnée par le Parti. En 1967, Le Parti communiste dans la résistance, page 73. Cette erreur qui fut blâmée et sanctionnée par le parti. En 1970, Jacques Duclos publie ses mémoires. Page 55, il évoque cette tentative. Mais la page 77, il cite Maurice Tréhant comme son homme de confiance pour toutes les relations extérieures. Alors, ou bien la direction du PC a désavoué cette démarche et a pris des sanctions contre ceux qui l'avaient faite, c'est-à-dire Katla, il n'est plus là, il était guillotiné. Froissin, on s'est empressé de l'exclure, donc il ne peut plus parler puisqu'il est exclu. Et Maurice Tréhant. Mais Duclos dit, Maurice Tréhant, c'était mon homme de confiance pour les relations extérieures. Alors comment l'homme de confiance de Duclos à cette époque-là pour les relations extérieures peut-il s'être présenté deux fois à la propagande d'Achtafle sans au moins en avoir référé à Duclos ou lui avoir demandé son avis. Il s'agissait donc bien d'une démarche qui avait été dictée par Duclos. Comme elle n'a pas réussi, comme les événements ont montré que c'était une erreur, alors on sanctionne celui qui a fait la démarche, ou bien on lui donne une qualification outrancière, et ainsi tout témoignage est superflu. Dans cette période-là, on peut dire que tous les efforts, revenons aux militants communistes qui font quand même des efforts dans cette période-là, tous leurs efforts tendent à reconstituer un parti communiste clandestin uniquement pour qu'il existe. Selon les régions, la reconstitution se fait sur des bases très différentes, selon l'implantation ouvrière des régions et selon l'histoire des régions également. Le premier mot d'ordre développé de façon violente par les publications communistes, c'est « La France au travail ».« La France au travail », en juillet 1940. Ça n'est qu'en septembre 1940 que les publications diront « Il faut que les usines travaillent, non pas pour la guerre, mais pour les besoins de la population ». On verra ce qui s'est passé après, tout à l'heure, en septembre 40. Mais en juillet 40, en tout cas, le mot d'ordre, c'est la France au travail. Pourquoi? Je vous dirai tout à l'heure à propos des syndicats, ce qui s'est passé dans les organisations syndicales. À cette époque-là, une des trois grandes tendances de la CGT reconstituée en 1936 a sombré complètement dans la collaboration avec Vichy. Et le porte-drapeau de cette tendance, si on peut appeler ça un drapeau, qui était la tendance de la revue Syndicat, le porte-drapeau de cette tendance, René Bellin, et ministre du Travail de Vichy. Un journal existe qui s'appelle La France au Travail, qui est un journal de l'équipe de Bellin. Il ne sera pas encore assez collaborateur aux yeux de Georges Dumoulin, qui est aussi de cette équipe-là, et qui fera plus tard son journal L'Atelier, parce qu'il trouve que La France au Travail, ce n'est pas encore assez pro-allemand. Mais enfin, ça, c'est une parenthèse. La France au travail gêne considérablement la direction du Parti communiste. Pourquoi? Ben exactement comme l'implantation du Parti socialiste ou du PSU dans les entreprises, ça le gêne infiniment plus qu'une... Exactement pour ça. parce que la France au travail s'adresse aux ouvriers. Et la cible de la direction du Parti communiste, c'est Belin, la France au travail et Vichy. Alors lui reprend le mot « la France au travail » en juillet 1940. Il faut dire que dans la même période, et ça c'est très intéressant, parce qu'en juillet 1940, les relations sont rétablies avec la Belgique. La délégation de l'Internationale communiste est toujours à Bruges. Et en juillet 1940, Julien Lahaut, qui est le secrétaire général du Parti communiste belge, dispose d'un Ausweis qui lui permet de venir en France et de circuler librement en France pour récupérer en France où ils sont restés par peur des Allemands, parce que les Belges, comme les gens du nord de la France, ont connu deux invasions en 25 ans et dans des conditions assez terribles. Et les Belges qui ont peur des Allemands qui sont restés en France, Julien Lahaut va les récupérer pour qu'ils remontent en Belgique et qu'ils exigent de remettre les usines en route. C'était donc bien une directive de l'Internationale communiste, celle-là. Faire retourner, faire produire les usines de l'Occident. Produire pour qui? Pour la machine de guerre anti-impérialiste. Cependant, que la direction du Parti communiste donne comme indication à ses militants de sortir de la clandestinité, de forcer la porte de la légalité en quelque sorte, de se présenter sur les marchés et d'assurer des permanences. Il a suffi donc que les policiers repèrent de près toutes ces permanences pour trouver tous les endroits où loger les anciens responsables communistes. En septembre 1940, le gouvernement de Vichy déclenche la répression anticommuniste. Ça a quand même fait août, juillet, août et septembre. 3 mois sans répression. Et en septembre 1940, c'est le déclenchement de la répression anticommuniste. En même temps, d'ailleurs, se reconstitue le pacte Allemagne-Italie-Japon, c'est-à-dire la reconstitution du pacte anticommunitaire. Sans doute, à ce moment-là, l'international communiste commence à réfléchir. Immédiatement après, 15 jours après, en début octobre 1940, c'est la rencontre Hitler-Franco à Hendaye. Donc, un élargissement encore du pacte anticommunitaire. On peut penser que l'international communiste a quand même bien compris qu'il s'agissait d'une situation nouvelle. Quelques jours plus tard, le 27 octobre 1940, Hitler rencontre Pétain à Montoire. Situation nouvelle pour la direction du Parti communiste. L'allié privilégié d'Hitler en France, ça ne sera jamais le Parti communiste malgré le pacte germano-soviétique. L'allié privilégié, ce sera Pétain. L'entrevue de Montoire et ses conséquences coïncident donc avec les événements internationaux qui amènent l'international communiste à faire une autre analyse. C'est la fin des illusions légalistes de la part de la direction clandestine du PC. C'est la certitude du choix hitlérien, et c'est aussi la preuve que la bourgeoisie nationale va désormais jouer sur deux tableaux, un à Londres et un à Vichy, et la même bourgeoisie. Il y a donc là, à ce moment-là, une concordance entre la situation nouvelle pour l'international communiste et la situation nouvelle pour le Parti communiste clandestin. Et puis en novembre 1940, l'Allemagne annexe l'Alsace et la Lorraine. Alors ça m'amène à la quatrième partie. La direction du Parti communiste va passer de l'hostilité à un seul impérialisme, l'impérialisme anglo-saxon, à une hostilité à deux impérialismes, l'impérialisme anglais et l'impérialisme allemand. En novembre 1940, Molotov se rend à Berlin. Il y va pour avoir des entrevues avec Ribbentrop et Hitler. Il semble que les conversations ont révélé d'insurmontables difficultés. Immédiatement, ce qui prouve donc que les relations avec l'Internationale communiste est encore étroite et rapide. Une brochure éditée par la direction du Parti communiste en décembre 1940 pour le 20e anniversaire du Parti communiste justifie le défaitisme de 39-40 contre l'impérialisme anglo-français, mais en même temps appelle au combat politique contre l'hégémonie de l'impérialisme allemand. Et c'est la première fois en décembre 1940 qu'on voit apparaître une telle indication dans une publication communiste. Je rappelle qu'en novembre 1940, Molotov est revenu bredouille de Berlin. Il n'a pas réussi à s'entendre. Alors, là encore, vous voyez comment les intérêts d'État de l'URSS pouvaient déterminer presque mécaniquement les indications de l'Internationale communiste et l'attitude du Parti communiste en France.